On va commencer cette première table ronde. Il y aura une seconde table ronde après qui sera consacrée à un sujet très important pour Manchette, à savoir la traduction. Cette première table ronde, elle nous a semblé importante et même essentielle quand on a préparé ce colloque avec Gilles, parce qu'il était capital pour nous de faire entendre la voix de romanciers pour savoir ce que les romanciers avaient à dire sur Manchette. Et nous avons donc demandé à trois auteurs, qui sont tous de fins connaisseurs de l'œuvre de Manchette, de nous dire comment Manchette avait pu peut-être jouer un rôle dans leur parcours et comment peut-être un romancier, en lisant et en écrivant, pour reprendre le titre d'un beau livre de Julien Gracq, comment un romancier, en lisant et en écrivant, pouvait être influencé ou pas, on verra, par Manchette, à la fois en tant que lecteur et à la fois en tant qu'auteur. Pour ça, donc, j'ai avec moi trois auteurs. Tout d'abord, Xavier Boissel, qui est auteur notamment d'un essai aux éditions Inculte, Paris est un leurre, qui a été publié en 2012, mais également de deux romans, Autopsie des ombres, qui a été publié en 2013, et Rivière de la nuit, qui a été publié en 2014. Et Xavier Boissel a notamment reçu le prix automne de la Société des gens de lettres pour Autopsie des ombres. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ces romans explorent avec liberté différents genres. Christian Roux, qui est assis à l'autre bout de la table, est lui un auteur de polar qui a été remarqué dès la publication de Braquage, qui a reçu le prix SNCF en 2002. Il est actuellement publié aux éditions Rivage, dans la collection Rivage Noir. On lui doit notamment L'homme à la bombe et tout récemment Adieu Lily Marlène, qui est un roman qui s'intéresse à la fois à des thèmes importants dans le roman noir, mais aussi à l'histoire et à la musique. Car Christian Roux est également compositeur, musicien et chanteur. Et enfin, Hervé Lecor participera aussi à cet échange. Donc après des débuts remarqués à la série noire, Hervé Lecor a été publié lui aussi dans les collections de Rivage. Il a commencé chez Rivage avec L'homme aux lèvres de saphir, puis avec Les cœurs déchiquetés, qui a reçu notamment le Grand Prix de littérature policière en 2009, et tout récemment avec Après la guerre, qui est un roman qui a été tellement couvert de prix que je renonce à en faire la liste, car ce serait interminable et ça nous prendrait beaucoup de temps. Voilà. Donc, ma première question, elle sera simple, ça nous permettra peut-être de faire un petit peu connaissance. Je voudrais savoir, finalement, comment s'est déroulée votre rencontre à vous, en tant que lecteur, avec les œuvres de Manchette, s'il y a une œuvre qui vous a plus particulièrement marqué dans votre parcours de lecteur. Voilà. Je ne sais pas, Xavier, par exemple, si tu as un souvenir.
Ouais, ça remonte là. Oui. Ça doit remonter à mes années de lycée, je pense, puisque j'étais un lecteur assidu de Métal Hurlant, et puis aussi de Charlie Mensuel. Et donc, le premier roman de Manchette que j'ai lu, c'est Nada. C'est Nada, oui. Oui, voilà. Donc oui, ça date un peu.
Et c'est un roman qui t'a marqué à l'époque ou...
Alors oui, parce que après j'ai fait des études de lettres. Et alors c'était une littérature qui n'était pas toujours très très bien vue. C'était une époque où je lisais beaucoup aussi Ballard, enfin des choses un peu underground, comme on dit, Philippe K. Dick. Et ensuite, j'ai fait des études de lettres très classiques et j'ai mis un peu tout ça de côté. Alors, bien sûr, c'est une littérature qui m'a beaucoup marqué. Et j'y suis revenu ensuite parce que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une impasse dans le cadre de la littérature générale. Parce que je me suis longtemps posé des questions de forme. Et donc, c'est par la question de la forme que je suis revenu à Manchette, en fait. Par la question de la forme, d'une part, et aussi par la question politique, parce que il y a un moment donné, je me suis intéressé de manière assez intensive au corpus situationniste. Donc voilà, donc c'est la première césure, donc c'est l'adolescence, une découverte donc assez jeune, et ensuite un retour, mais un peu plus tardif, parce que je me suis posé donc des questions à la fois d'ordre esthétique et d'ordre politique, tout simplement.
À toi. Bien mon capitaine. Moi j'ai découvert, c'est amusant d'ailleurs, parce que j'ai découvert Jean-Patrick Manchette par la lecture de Nada en premier. Moi j'ai découvert les romans après leur sortie, c'est-à-dire que je les ai découverts dans le courant des années 80. Donc ces 10 romans ayant publiés de son vivant, ayant été entre 71 et 81, moi j'ai dû découvrir ça vers 85-86. Et c'était, alors j'avais lu Nada... parce que j'avais vu j'en avais vu le sujet, je m'étais beaucoup intéressé à la bande à Bader, je m'étais pas mal intéressé aux questions de la lutte armée, je m'étais à un moment de temps posé la question pour moi-même et j'y avais répondu déjà par ma lâcheté. Non. Ensuite, pour les raisons qu'il évoque dans Nada, donc du coup il y a une assez forte résonance. Mais très très vite, donc j'ai voulu lire un autre roman de cet auteur et j'ai lu Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Et déjà dans Nada, j'avais été assez plus, je dirais, happé par le style finalement que par toute autre chose. Et alors dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest, c'était carrément extrêmement fort pour moi. Et comme j'avais découvert le roman noir par des auteurs comme un des premiers romans noirs que j'ai lu, c'était 1275 âmes de Jim Thompson. Et puis assez vite, j'avais lu Moisson Rouge de. Et donc je trouvais qu'il y avait une correspondance assez forte, notamment avec Moisson Rouge. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert que au début Manchette, c'était juste des carrés noirs dans la série noire. Pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je m'intéresse énormément aux œuvres et assez peu à ceux qui les écrivent. Bon, je m'en excuse, mais et du coup, en fait, autant j'ai lu à la longue tous ces romans et donc je reviens toujours à lui. On développera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais je reviens toujours à lui pour des questions de style. Pour, en fait, je me pose certaines questions auxquelles il a des réponses. Voilà.
Pour ma part, ça va. J'ai lu le premier roman de Manchette que j'ai lu, c'était Le Petit Bleu, la Côte Ouest. Alors, c'est un peu singulier parce que je l'ai lu, j'avais déjà 22-23 ans, et c'est le premier roman policier que j'ai lu. Je n'avais jamais lu aucun roman policier. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je sais qu'à l'époque, j'étais absolument passionné, en revanche, par le roman latino-américain. Leo Carpentier, Garcia Marquez, c'était la grande période de ces grands écrivains-là, et j'étais vraiment plongé là-dedans. Pour moi, en particulier, la critique sociale, la puissance politique de la littérature, c'était surtout chez ces écrivains-là que je la trouvais. J'étais, en l'occurrence, ignorant complètement du continent nord-américain, par exemple. Depuis, heureusement, j'ai un peu exploré. Mais, donc, c'était un espèce de choc, et, enfin, de choc. Ça a été surtout d'abord une lecture naïve. C'est-à-dire que j'ai lu ça comme un idiot, comme un très bon roman d'action. Bon. Et après, assez vite, j'ai lu Nada, et un peu pour les raisons que disait Christian, parce que justement, ça posait toute la question de la lutte armée et des groupes qui s'y consacraient qui essayaient en France de la promouvoir, parce qu'il y a quand même eu... On a dit tout à l'heure que la France n'avait pas plongé dans la lutte armée telle que l'Italie ou l'Allemagne l'ont connue, mais il y a des raisons politiques assez, je crois, objectives pour ça, mais en même temps, il y a eu aussi des tentatives, c'est-à-dire que tout le début de dérive, la gauche prolétarienne ou des choses comme ça, ça a été moins sain quand même. Bon. Il y avait un bouquin d'Alain Gesmard là-dessus à l'époque qui était intéressant à lire.
Action directe quand même.
Voilà, et puis il y a eu Action directe. Bon. Mais disons qu'ils n'ont pas, ça n'a pas eu le destin que ça a eu ailleurs. Mais et là aussi, lecture naïve, roman d'action, roman plutôt marrant dans lequel on voit un ambassadeur américain enlevé. Quand on a 22-23 ans comme moi à l'époque, on trouve que c'est plutôt une bonne idée, même si c'est une idée idiote, quoi. À la fois, c'est plutôt marrant à faire, et en même temps, on voit bien dans quelles impasses ça aboutit. Et je suis revenu à Manchette, mais on en reparlera après, parce que ça, après, c'est presque la résultante de tout ce qui a été dit ces deux jours. Je suis revenu à Manchette après pour des raisons un peu moins stupides, c'est-à-dire avec plus de préoccupations de style et là du coup petit à petit au fur et à mesure de ma découverte du roman noir par les raisons de la critique sociale du témoignage de poser la question à l'époque de la, je me posais la question à l'époque de la critique marxiste de la littérature. J'avais lu les bouquins de Pierre Macheret, de Georges Lukács et tout ça, et je me posais la question de savoir comment on pouvait critiquer d'un point de vue marxiste la, la littérature. Bon, est-ce que face au structuralisme, face à toutes les écoles critiques de l'époque, comment est-ce qu'on pouvait faire face à ça? Et du coup, en lisant du roman noir, je m'apercevais qu'il y avait une autre critique qui existait, c'était la critique par la littérature elle-même de la société, du respect de retournement de perspective qui m'intéressait. Bon, voilà, après j'y reviendrai peut-être, mais c'est comme ça. J'ai commencé un peu à lire ça comme... ce qui me fait dire aussi qu'il y a plein de niveaux de lecture. Enfin, on l'a vu ces jours-ci. Plein de niveaux de lecture de manchettes, y compris une lecture, je veux dire, de type enfantin. Agréable.
Adolescente aussi. Enfin.
Oui, oui, voilà. J'assume tout ça. Et peut-être aussi qu'il y a, quand on écrit, il y a peut-être aussi une espèce d'attitude et naïve et enfantine que de vouloir encore dire des choses alors que presque tout a déjà été dit.
Oui, alors c'est intéressant parce que du coup, en vous écoutant, je me dis que vous avez découvert Manchette et que vous l'avez après finalement redécouvert et que finalement ce serait un écrivain, enfin c'est peut-être ce qui fait la différence entre les bons romans et les très grands romans, c'est les romans qu'on peut relire avec autant de plaisir, sinon plus. Et alors du coup, par rapport à des auteurs des années 70 et 80, il y a eu beaucoup de romans publiés à la série noire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces romans-là, on y revient aussi facilement 20 ans après la disparition de Manchette, 40 ans après la publication de, par exemple, l'affaire Angustro ou Nada? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez encore y revenir? Est-ce que vous y avez... et trouver quelque chose de précis, ou est-ce que vous cherchez encore quelque chose dans ces œuvres?
Bon, en fait, pour moi, il y a une notion qui est très très importante pour moi en littérature, en musique, et une notion donc que j'ai découvert assez récemment exprimée par Jean-Patrick Manchette dans ses chroniques, c'est la notion d'artisanat. Un très très grand compositeur qui était Jean-Sébastien Bach, à qui ses admirateurs disaient « Mais comment tu peux produire autant d'œuvres et autant d'œuvres géniales ?» Il dit « Mais travaille autant que moi, c'est tout. » C'était sa seule et unique réponse. Il ne faisait même pas appel à Dieu, alors que pourtant il était... Et moi, je crois énormément à... Jean-Patrick Manchette, à un moment dans ses chroniques, dit qu'au début, il y avait l'artisanat, et à la fin, il ne restera que l'artisanat. Parce que s'il parle de la mort de l'art, il ne parle jamais de la mort de l'artisanat. Et cette question d'artisanat, c'est peut-être aussi une réponse à une autre question qu'il ne pose pas vraiment, lui comme les situationnistes, c'est de dire l'art est mort, mais apparemment la pulsion de création n'est pas morte. Manchette a des pulsions de création, les situationnistes ont des pulsions de création, on a des pulsions de création et on en fait quoi de ces pulsions de création? Je me suis beaucoup intéressé à la musique... classique, comme je disais, mais aussi contemporaine. Donc on va très très loin, on va jusque chez les bruitistes, on va jusque dans... Et évidemment que la tentation de dire « mais tout a été fait » est évidente. Moi j'ai adoré les surréalistes quand j'étais jeune, j'ai les ai lus et relus, et ils font partie des gens que je relis aussi. Et évidemment, au bout d'un moment, on a envie de se dire « bah bon, bah alors tout est foutu ». Mais sauf qu'il y a cette pulsion de création. Et sans savoir qu'il avait utilisé ce terme-là, je trouvais chez Manchette, en premier lieu... Tu as tout à fait raison de rappeler le plaisir de lecture, et en me disant, mais d'où vient ce plaisir de cette impression que les choses sont vachement bien faites? Moi, je le dis d'une façon un petit peu réduite, mais elles sont vachement bien faites. Et j'ai fini par comprendre que ça devait sans doute passer par l'artisanat. Et il se trouve que les autres auteurs vers lesquels je me retourne quand j'ai besoin de me ressourcer pour aller rechercher dans cet artisanat, même si je considère que je n'atteindrai pas leur petit orteil, mais ce n'est pas très grave, c'est Faulkner, c'est Flaubert, c'est le Hemingway des 80 premières pages du Soleil se lève aussi. Et c'est en fait ces gens qui ont vraiment, sont des tailleurs de mots, des tailleurs de phrases, comme ça, et qui inlassablement au fond avancent. Bon, ok, ils se sont tous arrêtés à un moment. Quand je dis inlassablement, ils se tuent ou ils arrêtent. Mais néanmoins, dans un premier temps, moi c'est vraiment. Et donc je relis régulièrement Manchette parce qu'il y a des moments où je deviens pathos, je deviens trop psychologique, où il y a des choses que je ne retrouve plus. Et je retourne les chercher là-dedans. Juste pour compléter, il y a deux autres auteurs parce que parfois Manchette est un peu sec pour moi par rapport à ce que je cherche. Et donc je me tourne aussi assez très volontiers vers Céline ou vers un autre auteur américain qui s'appelle John Fante, et où là je retrouve comment arriver à exprimer une espèce de rage émotionnelle sans qu'elle devienne un pathos ridicule, quoi. Et c'est ce qui est voilà, moi je vais un peu faire chercher des professeurs, mais au début je commence à lire pour chercher une réponse, et puis en général je réavale une xème fois tout le livre parce que finalement je suis happé par le plaisir de le lire.
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si tu parlais d'artisanat, ça me plaît bien. En plus, cette histoire de l'art est mort de Manchette, je trouve ça un peu con. je suis pas du tout convaincu par cette espèce de thèse qui a été posée et qu'on n'a pas vraiment discuté ces jours-ci. Mais bon, c'était peut-être un peu hors sujet.
C'est vrai, on en reparle.
Bon, mais passons. En revanche, l'artisanat, je suis assez d'accord. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que, relisant Manchette et puis d'autres romanciers noirs, je pensais aussi à... j'ai découvert en même temps Jean Vautrin. Et pour alors lui qui est là aussi un plaisir, une autre sorte de plaisir de lecture, un autre travail sur la langue, mais bon, qui est tout aussi riche et profond. Mais cet artisanat, d'autant que le lisant et le relisant, au bout d'un moment, je vais vous faire une confidence, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire pareil. Et l'idée stupide d'écrire m'est venue à ce moment-là. Quand je dis l'idée stupide, c'est que je me suis dit, ben, en gros, c'est pas compliqué, puisque j'en étais toujours à mes présupposés naïfs. Ben, il suffit d'une action violente, de quelques voitures, de quelques fusillades. Et puis on doit pouvoir raconter un truc comme ça, c'est facile finalement. Et là où on voit que la question de l'artisanat, sinon de l'art, en tout cas de l'artisanat pour ce qui me concerne, se posait vraiment, c'est que justement, qui dit artisanat dit travail, et ça c'est une dimension que j'avais pas du tout envisagée. Enfin, le travail, je veux dire, le travail sur la langue, quoi, le travail de l'écriture, j'avais pas du tout envisagé ça. Et évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai pondu, je commençais à pondre 15, 20 pages qui se finaient par se dissoudre dans une espèce de daube lamentable et qui me frustrait, quoi. Mais la pulsion, hein, elle était, l'espèce d'étincelle, là, s'était mise à brasiller. Ça, je dis ça exprès, c'est une. De choc, ça s'était mis à brasiller et ça s'est pas éteint, quoi. Mais et c'est petit à petit que je me suis aperçu à quel point le style de Manchette a fini par me fasciner. Je ne savais toujours pas trop pourquoi, à quel point c'était bien fait, mais pas bien fait. À quel point il y avait ce travail profond sur la langue, ce travail de réécriture. Et j'ai découvert peu à peu, par des interviews que j'entendais de lui ou que je lisais à droite et à gauche, j'entendais peu à peu ce côté, de sa part, ce côté un peu obsessionnel sur le travail de l'écriture, écrire, réécrire, déchirer, jeter, réécrire, revenir sur l'établi en permanence. Et je me suis dit que, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je crois que c'est à peu près comme ça. En tout cas, c'est la méthode probablement qu'il faut adopter, c'est-à-dire travailler, quoi.
Oui.
Il n'y a pas 36 solutions. Et voilà. Et du coup, je l'ai découvert au fur et à mesure parce qu'il me servait un petit peu comme toi, quand tu parles de tes lectures, relectures, il me servait un petit peu comme de béquille. J'allais le relire. Et encore aujourd'hui, j'en parlais hier, Manchette, c'est quelqu'un que je peux relire, mais pas, je ne vais pas me taper un roman en entier. Je vais m'adosser à la bibliothèque, je vais en lire 20 pages. Un peu comme je peux le pratiquer, et ça aussi c'est important pour moi, en tout cas à titre personnel, avec de la poésie. Il y a une poétique, hein. Peut-être une poésie, mais il y a aussi une poétique de Manchette, qui est une prosodie, une musicalité, moi qui me saute, maintenant que je me suis un petit peu déniaisé par rapport à ça, qui me saute immédiatement aux yeux, aux oreilles. Et c'est pour ça que j'y suis revenu, que j'y reviens en permanence, avec, à côté, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, avec aussi des réserves sur ces hésitations à l'égard de l'art, et des réserves, et en même temps je comprends ça, son hésitation à l'égard de comment écrire, quoi écrire aujourd'hui, je crois, pour reprendre des expressions, aujourd'hui où il fait si froid.
Moi, je suis pas parti de cette. Enfin, c'est pas cette idée d'artisanat qui m'a vraiment fasciné chez lui. En fait, moi, à un moment donné, j'étais pris dans une espèce d'impasse, à la fois théorique mais aussi pratique, une aporie. La littérature que je lisais quand j'avais 20-25 ans, c'était essentiellement la littérature de l'avant-garde du XXe siècle. Et donc ça pouvait aller donc jusqu'au nouveau roman, mais je voulais pas perdre de vue non plus une espèce de littérature engagée. Quand j'étais lycéen, j'aimais bien Sartre, j'aimais Camus, et je me suis retrouvé très vite face à un dilemme, à savoir une littérature qui serait engagée, serait plutôt une littérature qui serait du côté du fond, qui serait plutôt du côté de la démonstration, du côté de la thèse. Et j'avais quand même une fascination pour la littérature, une littérature qui serait plus avant-gardiste. Je me souviens de Raymond Roussel, de Joyce, qui travaille donc plus le matériau, la forme. Enfin, dans les années 70, on disait le signifiant. Et donc, à un moment donné, le post-avant-gardisme, par exemple le nouveau roman, je me souviens, j'ai lu énormément Claude Simon, je lisais beaucoup Robe Grillet, je me suis retrouvé coincé dans une aporie. Parce que je voulais réunir les deux, enfin, j'aurais voulu trouver un écrivain qui réconcilie à la fois la forme et le fond sans perdre, sans perdre un point de vue politique, enfin, de faire de la forme elle-même un engagement politique. Et il y a eu deux écrivains qui ont été importants vraiment pour moi, qui ont réussi à réunir ces deux pôles, ces deux polarités. Ça a été d'abord le Pérec des choses, et puis ensuite donc plutôt les derniers romans de Manchette, en quelque sorte. Et pour moi, ça a été vraiment une planche de salut, parce qu'il y a un moment donné, j'étais complètement embourbé. Alors comme vous l'avez dit. Quand on commence à écrire, c'est toujours un peu de la daube. Et c'était vraiment très, très mauvais. C'était une littérature de pastiche. Et qui hésitait justement entre l'engagement, entre le travail sur le signifiant. Et puis bon, ça collait pas du tout. Et celui qui m'a permis de trancher cette aporie, c'est Manchette. Alors le Manchette, plutôt le Manchette dernière manière, et le Pérec première manière, en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a permis de dépasser, alors ça c'est un terme un peu hegelien, de dépasser cette aporie dans laquelle j'étais coincé. Et s'il n'y avait pas eu ces auteurs-là, je pense que j'aurais peut-être pas écrit. À un moment donné, je me suis posé des problèmes théoriques et j'étais quasiment aphasique. En fait, j'étais obsédé par quelque chose de Benjamin, enfin une phrase de Benjamin à la fin de l'œuvre d'art lors de sa République technique, qui disait que bon, comme le fascisme donc a esthétisé la politique, donc il faut trouver une espèce de réponse au fascisme. Donc c'est politiser l'esthétique. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'obsessionnel pour moi. Comment politiser l'esthétique sans faire du Sartre, sans faire du roman engagé? Comment politiser l'esthétique tout en, justement, qu'on ait quand même une poétique, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez souligné, un vrai travail donc, sur le style, sur la langue, etc. Et là, la porte de sortie, donc, ça a été Manchette, et puis donc, ça a été aussi le Pérec des choses, qui a été quand même très marqué par Lefebvre. On l'a dit, enfin, on a un peu parlé ce matin des situationnistes, on n'a pas beaucoup parlé de Lefebvre, par Lefebvre, mais aussi le Barthes des mythologies. Et alors, le Barthes des mythologies, c'est pas forcément une référence pour Manchette, mais le Barthes des mythologies, c'est quand même un livre qui s'adosse beaucoup à Brecht, et Brecht, c'est aussi quand même une référence pour Manchette. Et donc voilà, c'est ça, ce qui m'avait fasciné, c'était ce geste-là, et en plus, ce qu'a dit Bruce ce matin, le cheval de Troie, c'est-à-dire d'œuvrer au sein de la culture de masse. Et là, j'ai été subjugué, parce que on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une première lecture très naïve de Manchette quand j'étais adolescent, comme quand je lisais Ballard, Lovecraft ou Dick. Et là, je me suis dit, coup double, il arrive à politiser l'esthétique et en plus à investir un média de masse. Et bon, ça, pour moi, c'est vraiment un coup de génie. Alors, c'est peut-être un topos, la mort de l'art, mais il y a chez Manchette, il y a une obsession hegelienne quand même du dépassement et que je trouve vraiment remarquable. Enfin, moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. Et je pense toujours à lui quand j'écris, parce que il faut travailler la phrase, mais c'est la forme qui est elle-même une forme d'engagement politique, en quelque sorte. C'est elle qui doit aller au cœur des choses. Donc voilà, enfin, je suis pas un auteur de littérature de genre à part entière, donc, mais c'est comme ça que ça a pu affecter mon écriture.
Bien. Et alors, justement, pour filer la métaphore, parce que Christian parlait d'artisanat, si on rentre un petit peu dans l'atelier du romancier, est-ce qu'il y aurait des outils de manière assez concrète, qui auraient été utilisés par Manchette, qui vous ont servi dans vos propres romans? Est-ce qu'on trouverait, alors peut-être pas forcément des échos, mais en tout cas des traces? ou dans le fond avec des petits clins d'œil, mais ça c'est peut-être un petit peu compliqué, ou dans votre travail à vous, du texte, des choses qui ont pu vous aider à un moment donné?
Des clins d'œil, ça non, j'en ai pas trop conscience. Après, ce qui est... L'analyse de son propre travail tout en travaillant est quand même quelque chose que personnellement j'évite, parce que là je crois qu'on tourne fou. Il y a quand même un outil évident que j'utilise, qu'utilise je pense beaucoup Manchette, et on le voit dans les épreuves ou dans les approches de la princesse du sang, c'est la hache quoi. C'est couper quoi. Sacrifier une bonne description à une... Parce que sacrifier une bonne... Pourquoi pas sacrifier une bonne... Enfin, une description que je trouve bonne, pardon, elle l'est peut-être pas, mais sacrifier une description que je trouve bonne, je peux le faire, quoi. Après Manchette, je peux le faire, mais comme je le sais, je pense, Dashiell Hammett. Et notamment, pour la raison que tu dis, Xavier, je trouve que je rejoins aussi, c'est qu'il faut que la forme reste toujours quelque chose qui cogne, qui frappe, qui tape, qui... Alors, dans mes premiers romans, en tous les cas, il y avait beaucoup ça. Là, sur Adieu Lily Marlène, j'ai cherché des choses beaucoup plus qui vont chercher ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres directions. Mais cette idée de toujours couper, moi, il y a quand même beaucoup de pages qui partent un peu aux oubliettes. Et c'est une chose que c'est vraiment le gros outil, mais celui-là, c'est vraiment le plus gros, hein, le plus grossier, quoi. Après, non, des fois, c'est plus mystérieux que ça. C'est comme Hervé, je vais lire 20 pages et tout à coup, ça va me remettre le pied à l'étrier, mais j'arrive pas à savoir comment. Moi, je ne suis pas un écrivain qui est affolé par ses maîtres, je suis un écrivain qui demande juste à ses maîtres de continuer à lui apprendre des choses. Et donc, je les lis, je les relis, je me dis, c'est pas grave si tu n'arrives jamais à faire comme eux. Puis je pense et j'espère en tous les cas que je suis encore que à la préhistoire de mon écriture, quoi. Enfin, moi, je pense que je suis encore que là, en tous les cas.
Ben, moi non plus, je ne suis pas sorti de la caverne, de ma grotte. Mais non, ce que j'avais... Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait des pastiches, comme tout le monde. J'étais parti sur des trucs. Moi, ce qui m'intéressait chez Manchette assez vite, c'était son écriture behavioriste, comme on dit. Je trouvais cette sécheresse justement très profitable à la fois à l'action et au lecteur, parce que du coup, ça se lit vite. Mais Et du coup, je sais que j'ai écrit au moins un roman que je ne l'ai pas déclaré comme ça, mais qui pour moi est un hommage, une espèce d'hommage à Manchette, où je me suis appliqué à avoir cette écriture-là, sans aucune... on en parlait hier, je crois, une écriture sans profondeur apparente. Et donc je me suis amusé à ça, et ça a été une expérience d'écriture assez singulière, parce que effectivement là du coup on laisse partir une espèce de notation psy machin, et hop, aussitôt on se rattrape, et là je sais pas si c'est un roman intéressant, mais en tout cas c'est un roman où j'ai appris, enfin j'apprends à écrire à chaque roman, mais c'est un roman où j'ai vraiment appris à maîtriser un peu mieux ou un peu moins mal certaines pulsions un peu débordantes, quoi. Mais non, là, des clins d'œil ni rien, non, rien de particulier. Simplement, je dis, il y a une chose que j'ai découverte petit à petit. Ça, c'est assez récent, c'est quoi, une dizaine d'années. C'est que et ça a été dit, je crois hier ou ce matin, je sais plus trop. Quelqu'un a dit que dans les bouquins de Manchette, finalement, bien souvent. Là, il y a cet épuisement de la matière romanesque, c'est-à-dire qu'en gros l'intrigue...
Exténuation.
Voilà, c'est l'intrigue finit presque par se dissoudre, s'effilocher, et que du coup le roman tient presque essentiellement par son écriture.
Par ses phrases.
Voilà. Et je crois de plus en plus à ça. C'est-à-dire que... en plus, c'est une excuse pour moi, parce que j'ai énormément de mal à construire des intrigues. Donc c'est aussi un truc qui m'emmerde, c'est bien de faire des plans et des trucs, ça faut plus savoir et qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il a fait ça. Bon, c'est un bordel, un sans nom, mais du coup je me console, à tort ou à raison, en me disant que si j'arrive à solidifier ou à cristalliser suffisamment mon écriture, peut-être alors que les insuffisances de l'intrigue, de sa construction, de ses, les insuffisances se verront moins. C'est une forme de lâcheté, de truc. Bon, on va essayer de balancer des écrans de fumée comme ça, tant qu'à faire que la fumée soit un peu mou. À peu près joli, quoi. Ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça que j'ai. En tout cas, c'est vraiment. En plus, c'est plus sérieusement, c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Et puis, comme lecteur, quand je lis un livre, c'est absolument pas l'intrigue qui m'intéresse, ou assez peu, même s'il y a des gens qui savent très 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 bien raconter des histoires et des personnages et tout. Là, on se dit, on tourne les pages, on trouve ça vraiment bien. Il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est encore des plaisirs de lecture. Mais ce que, la première chose que je lis, que ce soit chez des Français ou chez des gens, des traduits, c'est l'écriture. Le reste, si au bout de, je sais pas, et j'en lis un paquet pourtant qui me tombe des mains, si au bout de 20, 30 pages, comment dire, j'ai l'impression... Il n'y a pas cette matière-là, cette densité de l'écriture. Je m'ennuie et je ne finis pas le livre. Voilà, j'en suis là maintenant. Après, maintenant, je commence à être un peu vieux, donc faut plus non plus m'amuser avec des tours de danse. Quoi,
pas de voilà. temps à perdre. Non. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Hervé. Et puis ce qu'a dit Christian aussi, mais c'est ce qui a été dit ce matin, la question du, non pas du vaste Spannung, mais du Spannung, non pas la question du quoi, mais la question du comment. Le but d'intrigue, effectivement, elle est secondaire. Et moi, c'est ça qui m'a... Les intrigues de manchette, elles sont toujours... C'est pas squelettique, mais il y a toujours une espèce de dilution, comme ça, d'exténuation. Et ce qui est vraiment véritablement fascinant. Alors moi, ce qui m'a fasciné, c'est effectivement le comportementalisme, ce que vous avez dit, le behaviorisme, cette espèce de sécheresse qui empêche le lyrisme. Voilà, c'est ce que tu as dit, Christian, coupé dans le gras. Quoi. Voilà, donc à un moment donné, le lyrisme, c'est quelque chose de facile. Donc voilà, coupé dans le gras, tranché dans le vif. Et c'est ça qui m'a vraiment... c'était une claque, les premiers moments de manchette. Moi, je me souviens, c'est cette espèce de sécheresse de style, comme ça, dégraissée. Enfin bon, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les choses de Pérec. Donc ça, c'est une littérature de l'understatement, voilà, de la litote. Donc c'est ça qui m'a vraiment... séduit. Et puis il y a autre chose, c'est le retournement permanent du cliché, l'ironie dont Bruce a parlé ce matin. Alors même si à la fin c'est une ironie plus mélancolique, mais une ironie critique, sarcastique, enfin, donc ce travail sur le qu'on retrouve dans le détournement chez les situs, etc. Les deux, quoi. Donc à la fois donc cet anti-lyrisme qui n'empêche pas aussi un certain lyrisme dans le manchette de la fin, et puis cette causticité, enfin, dévastatrice, enfin, cette ironie, ce second degré, enfin, bon, ces jeux de mots. Dominique Rabatté en a rappelé un ce matin, l'ultra-gauche, c'est une gaucherie qui a dépassé les bornes. Enfin, bon, des choses qui ne sont pas simplement des jeux de mots gratuits, mais qui vont renvoyer aussi à cette forme très ramassée qu'on va retrouver, par exemple, dans les slogans situationnistes, dans la métagraphie, chez les lettristes aussi, cette espèce de concentration de dureté, de concentration, tu disais, de décrire quelque chose de direct tout à l'heure. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment... au fond, enfin, qui m'a ébranlé, quoi. Les premiers, je me souviens des lectures de manchettes. Enfin, j'avais jamais lu ça ailleurs, enfin, dans la littérature blanche. Enfin, et je trouve ça d'autant plus efficace que souvent la littérature blanche est totalement inoffensive et finalement ne dit pas grand-chose du monde. Enfin bon, et s'accorde parfaitement du monde tel qu'il ne va pas.
Et après, il y a une rendre hommage à Manchette et dire ce qu'il nous a apporter, mais moi j'ai envie de dire aussi comment s'en débarrasser.
Ah, oui, c'est la question que j'allais poser après justement.
Comment s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'il n'est plus, enfin pour ma part en tout cas, il n'est plus question de rouler sur ces rails-là. D'abord pour des raisons de style, parce qu'on vient de parler du lyrisme, moi autant je me suis appliqué à couper, autant désormais je ne m'interdis plus ça. Et comme lecteur, j'aime beaucoup. Par exemple, le lyrisme de certains grands auteurs américains, tout ce qui est autour du nature writing, ou comme Agnès McCarthy, ou les grands romans de Russell Banks, ou Ron Rash, ou bon, des grands messieurs comme ça, ou le baroquisme de Delroy. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de partir de manchette, mais il faut en sortir. Ça pour des raisons littéraires et aussi pour des raisons politiques. Parce que justement, désolé, mais la posture, je crois que c'est méchant de dire ça, mais je crois que la posture politique de Manchette, je suis en désaccord complet avec. D'abord sur cette question de l'art, voilà, et ensuite sur l'espèce de d'exigence qu'il a mise, qu'il a posée au roman noir, en le décrétant comme un obligatoirement engagé témoin de son époque et de son temps, etc. Ce qui a quand même produit des avatars tristes dans ce qu'on a appelé le néo-polar. Heureusement, c'est un peu derrière nous. Mais ce qui a produit, en tout cas dans le roman français, roman noir français, de gros dommages, quand même, des dommages plus que collatéraux. C'est carrément au centre de l'esthétique des romans noirs français, c'est-à-dire que on ne parlait plus de littérature, on ne parlait que des sujets abordés par les romans. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des tribunes gauchardes. La caricature absolue, c'est le poulpe, bon, qui est, pour lequel j'ai, pour ma part, une très très grande à l'égard duquel j'ai une très très grande réserve, bon, pour n'en pas dire plus, bon, mais voilà, donc il faut en sortir, quoi. À un moment donné, il nous a donné l'impulsion et grâce lui soit rendue, et en plus, oui, il y a une autre question que se posait Manchette et qui en revanche elle reste d'actualité, c'est qu'à un moment donné il est tombé probablement dans une espèce de silence relatif. On sait qu'il n'a jamais cessé d'écrire, mais qu'il a cessé de publier à un moment donné et qu'il n'arrivait plus à finir et tout. C'est la question effectivement de qu'écrire aujourd'hui quand effectivement on veut être encore, non point témoin, mais encore réceptif au monde tel qu'il va mal, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que par moment il ne vaudrait pas mieux se taire? Question qui s'est posée, question que, en tout cas pour ma part, je me pose assez souvent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, je me dis, du moins, à quoi bon? Est-ce que, quand on sait l'inutilité absolue de la littérature, sur le plan général, efficace, sur le plan de son efficacité, on peut se dire qu'il vaut peut-être mieux. Ou le silence, ou les armes. Voilà.
Moi, justement, je voulais rebondir, répondre un peu à ta question. Se débarrasser de Manchette. Non, moi, je ne me suis pas trop posé la question de m'en débarrasser, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il est une de mes références, mais pas du tout la seule. Parce que, justement, le lyrisme, je crois, n'est pas du tout une chose facile. Je crois que c'est une chose extrêmement complexe. Le lyrisme facile est facile, mais l'émotion réellement impactante, et non pas embourbante. Le lyrisme vraiment beau et non pas uniquement esthético débordant. Tout ça, il ne m'apprend pas grand-chose là-dessus, comme ça directement en Manchette, hein, en allant vite. À part effectivement ce que soulignait Gilles sur La Princesse du Sang et autres, là on commence à sentir que lui aussi il a envie d'aller un petit peu. Donc je parle de ce que j'avais, mes premières rencontres avec lui, de ce que j'ai cherché chez lui, et donc j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, pour moi, parfois, par contre, c'est un peu sec et j'ai aussi besoin d'autre chose, et donc je vais me nourrir ailleurs, et donc m'en débarrasser je pense pas, parce qu'il y a vraiment des choses assez essentielles qu'il a apprises. Et à la question du politique, de la littérature et du politique, je pense que je suis resté un citoyen politique, mais que je deviens un écrivain, c'est peut-être beaucoup dire, enfin bon, un écrivain égoïste. C'est-à-dire que maintenant, je cherche vraiment à écrire pour le mot, pour moi, pour apporter des petits clins d'œil à certaines personnes qui sont, au bout d'un moment, aux âges où on arrive, qui sont à peu près les derniers espoirs qui nous restent. Sans oublier que Manchette, sa grande admiration qu'il avait pour Dashiell Hammett, c'était de dire qu'il était resté, qu'il avait su rester communiste dans un pessimiste total et sans plus croire du tout à aucune solution aux communistes. Et je pense pas qu'écrire dans le désespoir et dans l'idée qu'il n'y a aucune solution nous empêche d'écrire, en tous les cas m'empêche d'écrire. Ça, c'est, ça me pose pas trop de soucis là-dessus. Et puis il y avait un troisième point, mais je m'en rappelle.
Non, donc, oui, c'est intéressant parce qu'en plus, Manchette lui-même, de toute façon, t'as raison, Hervé. Manchette lui-même, effectivement, regrette cet héritage qui est très mal assumé et renie un petit peu toutes ses œuvres, le néo-polar. Enfin, il y a des choses, il y a des pages terribles,
très sévères, ouais.
Notamment sur les romans de Fajardi, qui se fait descendre. Christian, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, non, c'est l'histoire de l'intrigue. Il y a quand même une chose. Moi, donc, j'étais très attiré par les surréalistes. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, des. Puis alors, je le faisais à leur manière. OK, on se bourre la gueule, on écrit n'importe quoi et c'est un poème. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas vraiment le truc qui marche le mieux au monde. Mais j'étais quand même fasciné par cette littérature noire qui, moi, je vais depuis l'âge de 18 ans, j'étais à la rue, il fallait que je bosse, tout ça. C'était pas très simple et qui me parlait beaucoup quand même. Et je me disais, maintenant, j'ai envie d'écrire quelque chose qui parle aussi à la vie concrète, quoi. Et là, je me suis dit, c'est quand même, ça y est, faut que tu arrêtes avec tous tes délires, quoi, et que tu essayes de vraiment te baser sur une intrigue. Et est-ce que le style peut tenir sans intrigue? J'ai pas la réponse, hein. Mais j'ai pas l'impression que oui. Enfin, le style.
Pas sans intrigue, mais avec une intrigue qui passe assez largement au second plan. Qui n'est plus indispensable à la lisibilité du livre et à sa qualité intrinsèque.
Ok, dans ce sens-là, oui. Mais oui, ça reste une ossature assez indispensable, même à la limite au sens où lit bien du terme. Quoi. Il faut que je me tienne à une intrigue et dedans, je fais ce que je veux.
On aime raconter des histoires, de toute façon.
Tout simplement. Et puis ça peut être une intrigue qui s'auto-annule, hein, on l'a dit ce matin.
Ça c'est très intéressant.
Voilà, idée d'une littérature qui s'avoue d'emblée comme fiction. Moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Hervé sur la postérité un peu fâcheuse de Manchette, une influence un peu fâcheuse sur toute une génération d'écrivains et de ceux qu'on a appelé donc issu de ce qu'on appelait le gauchisme en l'occurrence, qui m'a semblé très vite une impasse et il y a d'autres voies explorées. Mais alors justement, je voulais demander à Hervé qu'est-ce qui le gêne dans la position politique de Manchette.
J'ai découvert ça en fait sur le tard en lisant son journal en fait. Donc, autant dire que ça date, c'est quand même beaucoup plus récent que ces bouquins. Et j'ai été très impressionné, mais on en a beaucoup parlé ces jours-ci. J'étais très impressionné par les contradictions insurmontables dans lesquelles il s'est placé lui-même.
Bien sûr.
Il y a des moments où il dit la révolution, il faut absolument que la révolution communiste, dit-il souvent d'ailleurs, il faut absolument qu'elle se fasse. Et il y a d'autres moments où il se dit, c'est vrai que si elle se faisait, ça serait un beau bordel où il serait impossible de vivre.
Oui.
Pour mon propre confort, dit-il, je préférerais que ça soit un peu repoussé, quoi. Tant qu'à faire, si on peut attendre, ça m'arrange. Il est là. L'autre contradiction, c'est effectivement la contradiction de l'écriture, la contradiction insoluble aussi de le roman noir est mort comme l'art. Mais je continue à en écrire parce que j'aime ça. Et puis parce que je pense que ça peut encore avoir une certaine utilité, mais comment il arrive? Il ne sort jamais de cette... et c'est pour ça que le colloque a été aussi riche, c'est qu'on est allé dans les pleins et les déliés de sa théorie. Je ne sais pas si c'est une théorie d'ailleurs, mais de son laboratoire d'idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est constamment en train de se poser des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Et les seules réponses qu'il a pu apporter, c'était ses romans. Finalement, c'est quand on lit son journal, je suis désolé, mais son journal, c'est très décevant. Je pensais, en lisant son journal, trouver, la méthode Manchette, ou je pensais un peu comme quand on voit le bonhomme à l'atelier, comme on voit Flaubert dans sa correspondance.
Le gueulois,
j'ai une grande admiration pour Flaubert. Mais justement, on ne trouve pas ça. On trouve des questions en permanence, on trouve des doutes, on trouve des notations où, j'ai terminé morgue pleine en 3 mois pour payer mes impôts.
Quand on se dit
merde, il a écrit ça en 3 mois, quel saloupio, c'est pas possible. C'est du travail à la chaîne, on est chez Renault avec les établis maoïstes, là c'est pas possible. C'est pour ça que, c'est des choses que j'ai découvertes et comprises sur le tard et qui m'ont troublé et qui m'ont fait penser que. Du coup, je fais vraiment la part maintenant entre le travail artistique, j'ose dire, de littéraire de Manchette, et par ailleurs, l'intellectuel, le citoyen qu'il a pu être. Parce que là, qu'en creux, ça va beaucoup moins bien.
Non, mais de toute façon, il y a un double divorce. Il y a un divorce existentiel, Il le dit lui-même dans son journal, il dit « je suis un petit bourgeois, j'aime bien mon confort et je crois que la révolution ça ne m'arrangerait pas ». Et il y a un divorce théorique, enfin à la fois le Manchette théoricien, il y a un décalage entre le Manchette théoricien et le Manchette qui écrit des romans noirs. D'un côté il le théorise sa mort de manière très hegelienne et puis de l'autre effectivement il écrit. Donc, mais est-ce que ce double divorce, est-ce qu'il n'est pas non plus le fruit moi, je pense que c'était quand même quelqu'un qui était complètement imbibé par la 15 ans après, donc il fait le même constat que les situationnistes vers 52-53, mais lui fait le même. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est imbibé aussi justement par cette obsession du nouage du tressage entre le politique et l'esthétique? Moi, c'est quelque chose qui me frappe quand je lis les notes noires. Il y a des échos que je retrouve avec le LG, laboratoire de Pérec, avant d'écrire les choses. Donc, des questions que se pose Pérec avant d'écrire les choses, au tout début des années 60, le jeune Pérec, eh ben, il y a des échos qu'on va retrouver aussi. Il se pose plein de questions, et à chaque fois, il n'a pas de réponse. Et la seule réponse, ce sont les romans. Donc, c'est les choses pour Manchette, et ça va être les choses de Pérec et les romans de Manchette. C'est finalement, ce qui reste, ce sont les romans. Et je perçois mieux ce que tu veux dire.
Et en plus, son silence.
Oui, alors ça...
c'est discutable, oui, mais enfin, disons, son retrait...
après 81.
Après 81, ouais, comme par hasard, ouais. C'est après 81.
80,
c'est après l'accession d'une certaine gauche au pouvoir, qui n'est pas tout à fait la sienne, qui quand même lui pose problème. Et puis c'est... alors là, j'en parle à titre personnel, pour ma génération... de militants ou d'anciens militants d'extrême gauche, ce sont les années du reflux, du désenchantement.
C'est la gueule de bois.
C'est la gueule de bois, c'est l'effondrement proclamé partout dans les médias, des utopies.
C'est la restauration.
Jusqu'à la chute du mur en 89. Donc, c'est peut-être pas un hasard non plus si pendant cette décennie-là, il n'arrive plus à savoir quoi écrire ou comment l'écrire. Enfin, le quoi et le comment, en l'occurrence, ça se confondent. Et moi, je trouve ça me troule parce que c'est ce reflux-là. Alors, j'écrivais pas à l'époque. J'essayais de prendre des trucs, mais je me posais pas toutes ces questions-là. Je me les posais moi en tant que militant, en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant que les trahisons commencent à montrer le bout de leur nez, maintenant qu'il y a un certain nombre de rêves se fissurent, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, ce silence-là, moi, il m'interroge après coup. Hein. Je me suis interrogé d'une autre façon sur le moment, mais il m'interroge après coup. C'est-à-dire que cet homme-là, il s'est retrouvé un peu comme quelques milliers d'entre nous, dans une avançant vers l'impasse, quoi.
Mais c'est juste parce qu'en plus toute la question qu'il agite avec le nouveau cycle qu'il essayait de commencer, la question à laquelle il voulait répondre avec ses romans, et on voit qu'il avait du mal, c'était comment en est-on arrivé là. C'est la question centrale du nouveau cycle qu'il voulait commencer. Bien, ben, je vous remercie, on va céder la place pour la prochaine table ronde.